entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. La vie et la mort sont placées devant toi. Choisis la vie. Ça, c'est ton expérience. Et en même temps, cette expérience, elle n'enlève rien à la souveraineté de Dieu. Tu ne peux pas te vanter d'avoir fait le bon choix. On ne peut pas se vanter d'avoir fait le bon choix. Si on peut dire que le salut est effectivement quelque chose qui nous tombe dessus d'une certaine manière, on peut le voir, je dirais, dans nos expériences, voilà, dans nos familles. Certains arrivent au salut, d'autres non. Il y a quelque chose de très mystérieux là-dedans. Mais la Bible dit aussi que nous sommes sauvés par grâce, donc c'est un cadeau, ça nous tombe dessus, on peut le dire comme ça. C'est quelque chose qui est là, qui est présent, au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Ce cadeau, on le reçoit au moyen de la foi. Et la foi, elle est à portée de tous. Et si vous êtes ici ce matin, c'est que ce cadeau, il est là, à portée de votre foi. On va aller lire un texte biblique dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. Et je vais commencer par prier pour demander à Dieu de nous ouvrir l'entendement pour que nous puissions comprendre ce qu'il a à nous dire à chacun ce matin. Matthieu 7. Seigneur, à nouveau, nous te remercions pour ta parole, parce que ta parole est lumière et vie, parce que ta parole nous éclaire, parce que par elle, nous pouvons voir toutes choses, comprendre toutes choses, comprendre comment ce monde fonctionne, comprendre comment nous fonctionnons. Et nous pouvons surtout apprendre à te connaître, Seigneur. Mais nous savons aussi que cette parole nous est fermée si ton Esprit Saint ne vient pas éclairer notre lecture. Alors nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende sur nous, investisse nos cœurs, pour que cette parole, elle puisse venir résonner en nous et former le fruit que toi, tu veux lui voir former dans nos vies, à chacun. Amen. C'est un texte assez court qu'on trouve en Matthieu 7, à partir du verset 7, et qui nous dit ceci. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe, on ouvrira. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, tout en étant mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Amen. C'est un texte qui nous est proposé dans le cadre également du parcours que nous sommes en train de faire en Église, qui s'appelle « Bâtir sur du solide » pour poser de bons fondements. Et je vais être franc avec vous, ce texte-là est tellement petit et quelque part tellement simple, il n'est pas très compliqué à suivre, à comprendre, que quand vous faites quelques recherches à son sujet, quand vous consultez quelques commentaires, finalement vous trouvez assez peu à vous mettre sous la dent. Alors, ça se dit pas trop fort, ça, hein, de dire qu'il n'y a pas grand-chose à tirer d'un texte biblique. Ce n'est pas très politiquement correct. Mais d'abord, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas grand-chose que ça ne vaut pas la peine. Ça vaut la peine, c'est riche tout de même. Certains prennent l'angle de la prière, évidemment, ils ont raison de le faire. Et ils développent le sujet en long, en large, en travers, pour dire qu'il faut persévérer dans la prière, que c'est bon de persévérer. À mon avis, ils le font parfois en brodant pas mal et puis surtout en s'éloignant peut-être un peu du quid de la question, du point central. Le quid de la question, ici, je crois que c'est le verset 11. Le verset 11. La question, c'est de savoir finalement si Dieu donne effectivement de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Est-ce que Dieu fait ça? Et la réponse de ce texte, je crois que c'est très clair, c'est oui, 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 Dieu le fait, Dieu le fait. L'autre question, c'est de savoir de quoi il s'agit, c'est quoi ces bonnes choses? Ce texte-là, il ne répond pas directement, voilà, il parle juste des bonnes choses que Dieu donne, mais Il y a un autre évangile qui relate exactement le même enseignement de Jésus et qui vient préciser de quoi il s'agit. Il dit ceci, c'est dans l'évangile de Luc, il nous est dit « Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à qui le lui demande ?» L'Esprit Saint, voilà la bonne chose que le Père offre généreusement à qui le lui demande. Jésus ici s'adresse à ses disciples, on est sur la fin du sermon sur la montagne, et quelque part il aborde une thématique qu'il aborde à bien d'autres endroits, il annonce ici quelque chose qu'il dit à plusieurs reprises tout au long de son ministère, à savoir que quand lui ne sera plus là, quand il ne sera plus là physiquement sur la terre, il va envoyer à ses disciples un autre consolateur, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va venir pour guider ses disciples, pour les consoler, pour les exhorter, pour les enseigner, pour les convaincre qu'ils sont pécheurs, pour les amener à la repentance, pour leur faire dire « Abba Père », c'est-à-dire pour se reconnaître fils adopté par le Père. Et donc, nous dit Jésus, « Quiconque de ses disciples demande à Dieu l'Esprit Saint, le reçoit. » Et la première chose qui saute aux yeux, je trouve, dans ce texte, c'est à quel point il insiste là-dessus, comme si on était un petit peu dur de la feuille et qu'on ne comprenait pas à la première. « Demandez, dit Jésus, et on vous donnera. » Très bien, ça me semble clair. « Mais si ça ne suffit pas, cherchez et vous trouverez. Et si ça ne suffit pas, frappez et on vous ouvrira. Et si ce n'est toujours pas rentré dans vos petites têtes, eh bien, quiconque demande, reçoit. Et si ça ne suffit encore pas, qui cherche, trouve. Et si ce n'est pas encore bien rentré, à qui frappe, on ouvrira. » Six fois, Jésus, quelque part, répète la même chose, insiste de la même manière pour dire « ça va arriver ». Ça va arriver, si vous le faites, ça va arriver. Et puis il continue, il illustre, parce qu'apparemment ça ne suffit toujours pas. Si son fils lui demande du pain, quel est parmi vous celui qui lui donnera une pierre? Évidemment, c'est une question rhétorique. En principe, on donne bien du pain et pas une pierre quand nos enfants nous demandent du pain. Sauf si on est trop près du repas, auquel cas on ne donne rien, mais ça c'est un autre sujet. Il illustre encore, qui parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Et il dit, et pourtant, vous n'êtes pas saint. Vous n'êtes pas saint. Vous savez bien, vous, que vous n'avez pas toujours donné ce qu'il y avait de meilleur à vos enfants. Parce que vous êtes pécheurs, parce que vous avez la vue courte, parce que vous vous trompez, vous vous plantez, parce que vous avez vos propres faiblesses, vous avez vos talons d'Achille, vous avez vos propres blessures, et donc, vos décisions ne sont pas toujours hyper ajustées. Alors si vous qui êtes mauvais, si vous qui ratez tellement souvent, vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux, qui lui est saint, qui lui est amour, qui lui ne se trompe pas, qui n'a pas d'ombre en lui-même, à combien plus forte raison lui donnera-t-il de bonnes choses, c'est-à-dire ici l'Esprit Saint, à ceux qui le lui demandent. Et donc, il n'y a pas de bol, Dieu ne s'est pas révélé à moi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu se révèle à qui le lui demande. Mais il y a peut-être un petit bémol, un mais. Et je crois que ce mais, c'est l'attitude passive qui peut être la nôtre. Ce fait d'être là à attendre précisément que ça nous tombe dessus, attendre que quelque chose d'extraordinaire vienne là du dehors, et puis voilà, on est dans l'attente, on attend que ça se passe. Mais d'abord dire que ce qui devait arriver d'extraordinaire est déjà arrivé. Ce qui devait arriver d'extraordinaire, c'est que Christ est mort pour nous. Voilà ce qui devait arriver d'extraordinaire. Christ est mort pour nous. Lui qui est sans péché, lui qui n'a jamais commis aucune faute, est mort à notre place, nous qui sommes pécheurs, pour que nous puissions vivre de sa vie à lui. Non seulement il a pris notre péché sur lui-même, mais en plus, il nous a revêtus de sa justice. Il nous a revêtus de sa justice. Comment est-ce qu'on accueille ce cadeau-là? Au moyen de la foi. C'est ce qu'on a dit au début. Ce cadeau-là, il est à portée de tous. Il est là. Il est là aujourd'hui, parmi nous, ce cadeau, il est là. Il n'attend juste que notre foi. Il attend que nous croyions cela. Donc ce qui devait être fait d'extraordinaire a déjà été fait. Ce n'est pas la peine d'attendre que quelque chose d'extraordinaire arrive. Le salut, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est extraordinaire et c'est là, à portée de notre foi. Et la foi, c'est tout sauf une attitude passive. Et je crois que ça aussi, on le retrouve dans notre texte. « Demandez, dit Jésus. » Ce n'est pas écrit « attendez », c'est écrit « demandez ».« Demandez, dit Jésus, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Pourquoi est-ce qu'il faut demander, chercher et frapper? Je me suis posé la question. Je me suis dit, est-ce que ça ne suffit pas de demander? Est-ce que Dieu, finalement, lui aussi, est un peu dur de la feuille? Est-ce qu'il a du mal à nous entendre? Est-ce que quand on demande, peut-être qu'il n'a pas bien entendu, donc en plus, il faut chercher. Et puis, si on ne trouve pas vraiment, faut en plus continuer de frapper. Je ne crois pas parce que Jésus dit, quiconque demande reçoit. Donc, si je demande, je reçois. Ça, c'est la foi. Je demande et je reçois. Je dois croire que j'ai reçu. Ce que ça veut dire plutôt, c'est que la foi, effectivement, ce n'est pas une attente passive. La foi, c'est une mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça l'exercice de la foi. C'est ce moment où je décide de croire ce que j'ai lu. Je crois que cette parole est parole de Dieu, je crois qu'elle est vraie. Et donc, je me mets à vivre en conséquence. Et donc, la première chose, c'est que celui qui demande se met dans une posture de nécessiteux. C'est humble. C'est humble de demander, c'est déjà reconnaître qu'on n'a pas par soi-même, c'est reconnaître qu'on n'a pas la force de se sauver soi-même, c'est reconnaître qu'on a besoin d'un Seigneur, qu'on a besoin d'un Sauveur. Ça, c'est le premier pas de la foi. Mais si Jésus dit que celui qui demande reçoit, alors une fois que j'ai demandé, je dois vivre effectivement comme quelqu'un qui a reçu, et celui qui a reçu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se met à chercher, il se met en action. Chercher, c'est une demande mise en action. Je vais commencer à activer cette foi, en tout cas à vivre en conséquence de cette foi. Puisque j'ai demandé et que j'ai reçu, alors je cherche cette relation avec Dieu, je cherche à le connaître mieux, je cherche à comprendre sa parole. Et puis frapper, c'est une mise en action qui persévère. Parce que parfois il y a des résistances dans notre parcours de vie chrétien. Dans la foi chrétienne, tout ne tombe pas tout cuit dans la bouche. Les textes bibliques ne vont pas se mettre d'un coup à être limpides de la Genèse à l'Apocalypse. Il y a des moments où on va bloquer, où on va peut-être pas comprendre ce qu'on lit. Il y a peut-être même des moments où on va être choqué par ce qu'on lit, où on se dit « mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là ?» Eh bien là, il faut frapper et frapper jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et il y a cette promesse qui est que à celui qui frappe, on ouvrira. Celui qui arrête de frapper reste derrière la porte. Notre vie va passer par des moments d'épreuve, par des moments d'incompréhension, des moments d'obscurité, des moments où on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et là aussi, on nous demande de continuer à frapper, de continuer à persévérer jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Et elle s'ouvrira. C'est une promesse. Je vais donner une toute petite anecdote personnelle, pour terminer finalement, qui parle un peu de ça, quelque chose qui m'est arrivé au tout début de ma foi chrétienne, ou plutôt de ce moment où le Seigneur m'a mis le grappin dessus. Ce n'est pas le moment où encore moi j'avais donné ma vie à Dieu, mais c'est un moment où il venait me chercher avec pas mal d'insistance quand même. Un soir tard, je suis monté vers une petite chapelle que je savais ouverte la nuit. Alors quand je dis tard, c'était tard, genre minuit ou quelque chose comme ça, il était vraiment tard, il faisait nuit. C'était à Massiac dans le Cantal, je ne sais pas si vous connaissez Massiac dans le Cantal. Il y a deux promontoires rocheux, en haut de chacun il y a une chapelle, et puis au milieu il y a une vallée avec l'autoroute qui passe au milieu. Quand vous êtes sur la 75, vous pouvez les voir. Et je savais que l'une de ces deux chapelles était ouverte la nuit. Je suis monté là-haut, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je suis monté là-haut, mais enfin en tout cas je suis monté là-haut, un soir, donc je me suis garé le plus près que je pouvais, mais il fallait finir à pied. Je suis monté dans cette petite chapelle avec ma petite lampe torche. Et puis, arrivé dans cette chapelle, je me suis assis et j'ai éteint ma lampe. J'étais, je dirais, à un point crucial de ma relation avec Dieu, ou en tout cas de ce qui ressemblait à un début de relation avec Dieu. Je lui ai mis un peu quelque chose, pas un ultimatum, mais enfin un truc de ce genre quand même, où j'ai dit au Seigneur, je lui ai dit maintenant ça suffit, si tu existes, je veux te voir. Je veux te voir. Voilà, je suis là, j'étais isolé dans cette chapelle, tout seul. J'étais pas tranquille non plus, j'avais un peu peur, pour être franc. Déjà parce que l'endroit était un peu dangereux, en fait, fallait pas rater la porte parce que c'était vraiment en bord de falaise. Il faisait nuit, j'étais dans un endroit isolé, et comme d'habitude, dans un endroit isolé, c'est là qu'on se met à entendre des bruits bizarres, environnants, on n'entendait pas, on se dit, qui c'est qui peut monter là ? Enfin, c'est pas très, voilà, pas très rassurant. Mais je me suis mis là, dans le noir, et j'étais fermement décidé à ne pas bouger de là tant que Dieu ne serait pas venu lui-même à ma rencontre. Et je lui ai dit, je veux te voir arriver là, par le chemin par lequel je suis arrivé. Alors je ne le voyais même pas, parce que vraiment, il faisait noir. Mais j'ai dit, je vais attendre, et tant que tu ne seras pas venu, je ne partirai pas d'ici. Frappez et on vous ouvrira. Frappez et on vous ouvrira. Le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu à ma rencontre. Ça a été un moment fondateur dans ma foi, c'est pour ça que j'en parle encore aujourd'hui. Mais il n'est pas venu comme moi je l'avais imaginé. Et là, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah bah tout ça pour ça, tout ça pour ça ». Il n'est pas venu comme je l'avais imaginé. Ce qui s'est passé, si vous voulez, je peux vous le donner de manière scientifique et rationnelle, ce qui s'est passé, c'est que dans l'obscurité, ma rétine s'est habituée à l'obscurité, je me suis mis à voir. Je me suis mis à voir tout autour de moi, je me suis mis à y voir clair. Et du coup, j'ai pu repartir sans allumer ma lampe, parce que j'y voyais clair maintenant. Je suis reparti le cœur joyeux et le cœur en paix, aussi parce que j'ai entendu le Seigneur me dire, voilà, tu vois, je suis là. Tu es dans l'obscurité, mais tu as attendu, tu as frappé, et j'ai ouvert, et t'y vois clair. Et ça m'a porté, parce que j'étais vraiment dans un moment d'obscurité dans ma vie. Et je me suis dit, il faut que je persévère, il faut que je tienne bon, il faut que je traverse ce moment, et le Seigneur va venir, et je vais y voir clair. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce que c'est extraordinaire ? Ben oui, vous vous rendez compte, je vous en parle 15 ans après. Plus de 15 ans même, presque 20 ans. C'est extraordinaire pour celui qui le vit. Michael et Nelson ont fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Quelque chose, en fait, qui est incroyablement subversif dans le monde dans lequel on vit. Incroyablement subversif. Ils savent, l'un et l'autre, ce que c'est que de vivre dans l'obscurité de ce monde, parce qu'ils ne sont pas déconnectés de la vie des uns et des autres. Ils ont sans doute entendu les moqueurs, ceux qui rient quand on leur raconte qu'on a vu Jésus, là où eux ne voient qu'une adaptation de la rétine à l'obscurité. Mais quelle importance. Ils ont rencontré celui qui donne quand on lui demande, celui qui se laisse trouver quand on le cherche, celui qui ouvre la porte quand on frappe. Dieu confond les sages et il fait grâce aux humbles. Si tu as entendu la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, ça c'est ta part. Demande, il te donnera. Cherche, tu le trouveras. Frappe, et il t'ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Seigneur, je veux te remercier vraiment de ce que tu fais dans les vies des uns et des autres. À la fois, il n'y a pas de chemin facile, et en même temps, il n'y a pas de chemin non plus qui soit tellement difficile que toi, tu ne puisses le parcourir, parce que c'est toi qui viens à nous. Seigneur, si nous sommes réunis là ce matin, c'est non seulement pour célébrer la joie des baptêmes, mais c'est aussi parce que tu nous as fait venir ici, parce que tu veux t'adresser à chacun de nous. Peut-être que parmi nous, certains sont effectivement dans une grande obscurité. Peut-être que parmi nous, certains ont vécu tout ce qu'on vient de vivre comme en se posant extérieur au cadre, en regardant ça du dehors. Et toi, tu appelles chacun ce matin à entrer dedans. Tu appelles ce matin chacun à être dans le cadre, c'est-à-dire dans le cadre de ton appel, dans le cadre de toi qui parles à nos cœurs. Seigneur, je te prie d'abattre les résistances qui peuvent être en nous, Seigneur. Je te prie d'abattre chacun des prétextes qui peuvent s'élever dans nos cœurs à chaque fois qu'on entend en vrai ta voix. Seigneur, toi, tu veux atteindre chacun ce matin pour que chacun ait cette possibilité d'entrer dans cette vie nouvelle dans laquelle sont entrés Nelson et Michael aujourd'hui, Seigneur, dans cet engagement qu'ils ont pris envers toi et qui est aussi ton engagement envers eux, que toi tu as pris à la croix, qui est acté, Seigneur. Tu les aimes, tu as posé ta main sur eux, Seigneur, et maintenant tu les tiens dans ta main, tu ne vas pas les lâcher parce que tu es un Dieu fidèle. Merci, Seigneur, pour eux, et merci pour tous ceux qui ce matin entendent ta voix et n'endurcissent pas leur cœur. Amen.